Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
En Corée, la K-pop fait sa mue écolo. La vague musicale K-pop ou pop coréenne interplanétaire s'accompagne d'un flot de déchets plastiques, nous disent des fans qui pointent du doigt les limites de cette industrie caractérisée par son hyperconsommation. Article de Celio Fioretti pour Reporter. La situation est banale. Dans le monde de la K-pop, pour les fans, avoir autant d'exemplaires d'un même album est un passage obligé. Dans les albums de K-pop, il y a beaucoup d'éléments à collectionner, des photos, des posters et d'autres goodies. Pour tout avoir, il faut acheter une cinquantaine ou une centaine de fois le même disque. À la collection s'ajoute la possibilité, lorsque l'on achète un grand nombre de disques, de rencontrer son artiste préféré. Cet aspect de l'industrie musicale sud-coréenne fait tout son sel pour beaucoup de fans. Et c'est une manne financière importante pour les agences de production de ces idoles. Seulement, cette collectionnite, au cœur du modèle économique de la K-pop, génère une quantité astronomique de déchets, rien que 801,5 tonnes de plastique en 2022. Sur les 6 premiers mois de 2023, les artistes de K-pop ont vendu près de 5,5 millions d'albums physiques en Corée du Sud, contre à peine 17 millions aux États-Unis. Toujours confondu, autant de CD qui finissent en grande partie à la poubelle. Composés de plastique polycarbonate, les disques compacts de leur nom complet sont difficiles à recycler. À mesure que les fans dénoncent l'empreinte carbone de l'industrie musicale sud-coréenne, les agences se sentent obligées de réagir. Avec 70 dates dans 34 villes différentes autour du globe, le simple déplacement du groupe et sa logistique pèsent déjà lourd. Près de 1100 tonnes de CO2 par personne, contre 8,9 tonnes par an en moyenne pour un Français. Il y a encore beaucoup de choses à penser pour rendre la K-pop et l'industrie musicale en général plus respectueuses de l'environnement. À quand la K-pop renouvelable ?
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Avec l'inflation, les charges des éleveurs laitiers ont bondi. Les producteurs laitiers réclament un meilleur prix au géant du lait, le groupe Lactalis. Mais les négociations sont au point mort. L'inflation mine les exploitations et les éleveurs veulent être payés à leur juste valeur. Les producteurs de la FDSEA 69 et des jeunes agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisaient. Avec nous, l'un de ses représentants de la section laitière, Michael Gonin, éleveur à Amplepuis. Il est joint par téléphone.
C'est une histoire qui dure déjà depuis quelques mois. C'est vrai qu'on était, dans l'été, on était plutôt satisfait de l'application des OGA parce qu'on avait plutôt un bon démarrage et on avait réussi à obtenir des répercussions sur le prix. Donc on allait dans le bon sens. L'OGA fonctionnait et du coup, à l'automne, ils ont dû faire des promesses. Alors là, je suppose, mais dû faire des promesses à des industriels en disant, si vous grattez sur le prix, on vous prendra plus de volume. Et là, Lactalis, pour le coup, a été le premier à bégayer en disant, bon, bah moi, j'ai joué le jeu des EGA. Maintenant, je dois reprendre mes parts de marché. Donc, je retourne aux promos et je dans les négociations, je suis prêt à pas passer beaucoup de hausse, pas autant que ce qui est prévu. Mais par contre, il me faudra du volume pour reprendre ma place dans les rayons et reprendre mes parts de marché. Donc voilà, ça c'est le contexte. Mmh. Donc ils demandaient une hausse de environ 1% sur les produits finis type yaourt, lait en briques, alors qu'aujourd'hui il aurait fallu 5% de hausse pour respecter encore une fois la loi OGA, ce qu'on appelle la matière première agricole, parce qu'on est basé sur des coûts de production et nos coûts de production sont en année N-1. Donc ça répercuterait les charges qu'on a eues sur l'année 2022-2023. Et on était encore en période d'inflation. Donc c'est en fait en ayant un an de retard, et ben on a tort parce que finalement on n'a pas passé les hausses qu'on aurait dû tout de suite. Et maintenant que le train est passé, ben on voit qu'on va se faire avoir, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on est monté au créneau, et notamment auprès de Lactalis, mais je pense qu'il n'y aura pas que lui, pour dire et ben si le premier, le géant laitier, commence déjà à aller vers le moins, forcément les autres vont y aller et le rendez-vous du prix du lait notamment ne sera plus là et le revenu des éleveurs laitiers et l'attractivité du métier d'éleveur laitier en pâtira.
Les producteurs laitiers manifestent pour une rémunération au plus juste prix.
Voilà, en fait aujourd'hui on s'était mis d'accord par un pacte interprofessionnel. Quand je dis interprofessionnel, il y a les producteurs, les industriels et entre guillemets les distributeurs, mais ils viennent pas trop, pour une juste rémunération des producteurs de lait et un renouvellement des générations. Pour cela, il fallait que notre métier atteigne un revenu de 2 SMIC. Tous les producteurs de lait n'atteignent pas 2 SMIC, malheureusement. N'empêche que c'est un objectif, au vu des compétences qui sont nécessaires, du temps passé et de l'investissement personnel et financier. Voilà, c'était, il nous semblait, une juste rémunération. C'est un niveau début cadre, hein, un truc comme ça. Donc voilà, l'engagement avait été pris au moment de la signature des EGA où tout le monde s'en félicitait et aujourd'hui ils mettent un coup de couteau dans le contrat à peine 2 ans après quoi. Donc qui veut préserver leurs marges, très bien, qui fasse des promos, pas de problème, mais si c'est sur les marges industrielles, on peut pas toujours demander aux producteurs d'être la variable d'ajustement. Ça a été cela pendant 20 ans, 30 ans. Les prix des produits laitiers ont augmenté de 120% en 20 ans. Alors, vérifiez le chiffre, mais je suis pas sûr. Le prix du lait au producteur, il n'a pas bougé en 30 ans. Donc aujourd'hui, ben EGA, c'est notre totem. On y tient et on a joué le jeu la première année alors qu'on aurait pu vendre notre lait dans des pays étrangers plus cher que ce qu'on a vendu en France. Parce que le marché, ce qu'on appelle le marché spot, le marché extérieur était plus élevé. On a dit non, on se tient à notre règle. Ben, si on se tient à notre règle, il faut que tout le monde s'y tienne. On va être vigilant.
Un bilan des actions en mi-mandat pour le département du Rhône, des 13 cantons autour d'une table ronde de discussion pour les maires et les élus départementaux. Le temps d'un échange constructif pour la mise en œuvre de leurs projets respectifs en cohérence sur le territoire rhodanien. Avec nous Christophe Guillotot, président du Nouveau Rhône, sur le canton du Val-d'Oise.
On va à la rencontre des maires des 13 cantons. Aujourd'hui, c'était la rencontre de ce qu'on appelait autrefois le canton, ex-canton du Bois-Loin. On vient expliquer, on vient surtout répondre aux questions des maires. Puis s'il y a des dossiers qui sont plus complexes, revenir sur les interrogations des uns et des autres.
Les interrogations, effectivement, se sont longuement portées sur le logement et la problématique du foncier.
Ici, c'est un beau canton, qu'on appelle le canton des Pierres Dorées, qui attire beaucoup de gens qui viennent de Lyon, avec des moyens qui sont parfois importants, donc qui fait que, vous avez d'un côté le foncier qui est rare, parce que c'est ligné le maire du Bois-Loin, enfin ex-Bois-Loin, et vous avez les prêts qui sont plus difficiles à obtenir, donc l'accession au foncier est difficile, il manque parfois de logements sociaux pour loger ceux qui ont moins de moyens que d'autres, donc c'est une vraie difficulté, mais qui n'est pas propre à ce canton.
Une croissance démographique portée par la hausse du nombre de seniors et une baisse de la natalité.
Oui, c'est ça, les chiffres sont là pour le démontrer, c'est un canton qui a un vieillissement de la population, et on a moins de naissances que les ratios, je dirais, départementaux. Voilà, donc c'est quelque chose pour lequel le département ne peut absolument rien faire. Ça veut dire que ça implique pour les écoles communales, ça implique pour les collèges, ça a une implication pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte dans les projections de construction de services publics au public, c'est-à-dire qu'il faudra plus de lieux certainement d'accueil pour nos anciens. Et puis il faudra que ce qu'est le regard sur la scolarité. Jusqu'à présent, dans le département du Rhône, on prenait 600 collégiens nouveaux par an sur le territoire du département. Là, sur ce canton, mais ça veut dire qu'il y en aura moins. Donc ça veut dire que sur la distribution dans nos collège, les deux collèges publics et le collège privé, ça sera une incidence dans les années à venir.
Des projets de réhabilitation et réalisation de résidences autonomie seraient en cours sur le canton du Val-d'Oise, à Chamelet, Ternant ou encore au Val-d'Oise.
Ben oui, il y a des projets, on a plusieurs communes qui sont demandeurs, hein, je veux dire, qui anticipent, je veux dire, pour le vieillissement de leur population. Et donc là, il y a deux solutions, c'est soit l'OPAC peut être partenaire, soit ils le font aussi avec d'autres sociétés, il y a des sociétés privées qui font ça très bien. Après, si c'est communal, pas communal, le département peut intervenir pour soutenir. Voilà, c'est le partenariat qu'on peut avoir avec les territoires sur des 208 communes du Rhône, et là, plus particulièrement sur ce canton-là aujourd'hui.
Au service des Rhodaniens, le département du Nouveau-Rhône se donne comme objectif d'accompagner, de guider et de conseiller les communes et les intercommunalités dans leurs projets, d'encourager ainsi l'activité aux besoins essentiels des communes et de leurs administrés.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.